With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Cette émission est rendue possible grâce au soutien de ses auditeurs. Aujourd'hui, nous remercions tout particulièrement Fab M, Charlie, Arnaud, Michael Bernier, Christophe Perzina, Joe Weller et Guillaume Faure. Merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent l'émission. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toutes les semaines l'actualité tech, internet et gadgets. On écume les blogs, les news, toutes les infos intéressantes et on vous en fait une sélection, un résumé avec une bonne dose d'analyse en plus pour que vous puissiez comprendre et anticiper tout ce qui se passe dans le monde de la tech. Et en plus de ça, quand vraiment on est à notre meilleur, on fait ça et c'est sympa à écouter. C'est pas garanti, mais quand on y arrive, ça fonctionne plus ou moins. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir d'un côté une sommité du monde du journalisme tech en France, puisqu'il est désormais partout. C'est Kassim Ketfi. Comment ça va, Kassim ?
Ça va très bien et moi j'ai envie de te dire que je vais garantir le sourire sur cet épisode.
Je prends bon, le risque. Alors, allez, d'accord, très bien. Si tu n'y arrives pas, on sait à qui envoyer les emails énervés. Et ça. Je dis qu'il est partout parce que maintenant, je ne sais plus jamais si tu es sur Frandroid ou Numérama ou les deux et puis tes podcasts et je ne sais pas. Mais
oui,
on va
voilà,
dire partout.
Je suis partout, c'est ça.
C'est ça.
Et un peu dans Studio Renegade et un peu. Non, oui, surtout sur Frandroid.
Très bien, très bien. Et on a aussi avec nous un podcasteur averti qui en vaut deux, c'est-à-dire Guillaume Vendée. Comment ça va, Guillaume ?
Ça va très bien. Salut Patrick, salut Kassim. Merci beaucoup pour l'invite. Et puis moi, de mon côté, je ne vais pas seulement garantir les rires. C'est que oula, si jamais il n'y a pas de rire, eh ben, je vous rembourse votre cotisation à Patreon. Ça va plus loin que ça. Attention.
Oula, 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 oula. Alors, alors je tiens à préciser que Guillaume n'est pas un avocat et donc ce contrat n'est pas, comme on dit, binding.
Il ne respecte pas le RGPD en plus.
C'est
y a
ça,
rien
exactement,
qui va dans cette
exactement.
Histoire. Mais non, mais c'est sûr qu'il y aura des rires de toute façon.
Oui, voilà. Bah déjà, je pense que là, avec cette présentation hyper tech, on a commencé sur les chapeaux de roue. Et justement, on va continuer en parlant de Microsoft et de plein de trucs qu'ils ont présentés ainsi que de rumeurs. Des trucs hyper intéressants d'ailleurs. On a Google qui travaille sur des trucs. On a des téléphones qui vont arriver, des téléphones intéressants, mais vraiment des trucs nouveaux et différents, en plus de trucs un petit peu classiques. On a plein de news du côté de YouTube qui va avoir une version payante un petit peu différente des versions payantes qui existent déjà. On a quoi d'autre ? Twitter qui change la manière dont il contrôle les individus et les tweets. Facebook qui fait encore des trucs. Enfin, il y a plein de choses dont on va vous parler. Il n'y a pas un gros sujet qu'on va couvrir, mais on va commencer avec un sujet quand même que moi j'ai trouvé hyper intéressant et je pense que c'est le genre d'annonce et de produit qui quand même permet de redonner le sourire et la foi en la tech quand on est dans des périodes comme celle-ci où on est un petit peu désabusé. Et c'est l'annonce de la manette adaptative, le Adaptive Controller de Microsoft pour sa Xbox et pour PC. Alors, c'est une manette qui donc a à voir avec les jeux vidéo, mais c'est la tech en général, parce que c'est une manette qui est prévue pour les personnes handicapées, pour les joueurs en situation de handicap, et c'est un petit peu un truc qui va, d'après tous les échos que j'ai eus, alors je ne suis pas un très très grand spécialiste du sujet, mais les associations et les joueurs dont j'ai entendu parler ont l'air assez unanimes, c'est un truc qui va permettre aux joueurs qui n'ont pas la même motricité, la même mobilité que les autres, de pouvoir jouer beaucoup plus facilement et de pouvoir participer à, plus facilement encore, à ce hobby et cette partie de notre culture. Alors, qu'est-ce que c'est que cet appareil ? C'est un truc sur lequel ils ont travaillé pendant plusieurs années avec des joueurs handicapés, avec des associations, etc. Et en fait, c'est une une sorte de pavé sur lequel il y a deux gros boutons et plusieurs petits boutons, mais surtout, il est possible de l'accrocher un petit peu partout. Il y a des supports et la caractéristique principale, c'est qu'il y a derrière le gros pavé 19 ports jack qui correspondent aux 19 boutons de la manette. Et sur chacun de ces ports jack, on peut brancher ce qu'on veut. Et la manière dont ça fonctionne dans ce domaine, c'est que les boutons spécialisés sont généralement connectés par port jack de cette manière. Et donc, les joueurs qui ont besoin de pédales, par exemple, pour jouer avec leurs pieds, ou qui ont... vous savez, il y a des petits tubes dans lesquels on peut aspirer ou souffler pour déclencher des boutons. Eh bien, ils sont... possible de les connecter, ils sont possibles à connecter de cette manière. Il y a des sortes de supports qu'on peut mettre derrière la tête, où on peut appuyer, sur lesquels on peut appuyer en bougeant la tête, etc. Eh bien, tout ce système modulaire va pouvoir se connecter facilement à cette manette, qui est très configurable en plus de ça. Et ces types de systèmes un petit peu faits de manière customisée pour chaque joueur différent, coûtaient toujours... C'était possible de les faire, mais il fallait ouvrir les manettes, souder des trucs au bon endroit, concevoir un truc spécifiquement pour chaque joueur. C'était hyper compliqué, c'était hyper cher. Et là, Microsoft sort cette manette qui va coûter à peu près une centaine d'euros, un petit peu moins, qui va être en vente un peu plus tard dans l'année, et qui donc permet pour les PC et les Xbox, et j'espère que d'autres constructeurs feront la même chose, là pour le coup, vont permettre d'accueillir encore plus de joueurs dans notre et dans nos communautés. Je trouve ça, d'un point de vue tech et d'un point de vue gaming, c'est un petit peu le truc qui donne le sourire à tout le monde, quoi. J'imagine que vous n'allez pas me dire le contraire, mais Cassim, toi qui es un grand spécialiste de Microsoft, ou qui l'a été pendant un moment, et qui est un joueur aussi, j'imagine que c'est le genre de truc qui te redonne foi en ta société préférée.
Ah bah, au moins, oui. Non, alors, c'est très bien. C'est vraiment une news que j'ai vu passer, et j'ai un réflexe souvent, c'est d'essayer de voir ça... avec un peu de cynisme, tu sais, d'essayer de trouver le bon. Alors, mais ça va être marketing, ça va être un truc, c'est pour se donner une bonne impression, tu sais, un peu comme quand on fait des annonces dans l'écologie, une bonne image, et que ça va être du greenwashing. Bon, là, c'est pour l'accessibilité et tout. Et tu défiles le truc, tu vois les retours des gens concernés, et tu te rends compte qu'en fait, c'est vraiment très très bien, et que en fait, t'es juste un vieux cynique et stupide.
C'est vrai qu'il est difficile de trouver à redire sur ce projet et sur cette news. Ouais, c'est pas facile.
Non, c'est vraiment quelque chose de très positif. Et c'est vrai que quand tu interroges en fait les employés de Microsoft, s'il y avait vraiment un truc à retenir de la passation de témoin à Satya Nadella comme patron de Microsoft, c'est vraiment cette mise en objectif de vraiment l'accessibilité. C'est vraiment un truc auquel ils réfléchissent dans chacun de leurs produits maintenant. Pour les mises à jour de Windows 10, par exemple, ou d'autres produits de Microsoft, quoi, c'est vraiment quelque chose auquel ils réfléchissent en permanence. Ils doivent vraiment se poser la question, quand ils développent un nouveau produit, de comment je fais pour qu'il soit accessible au plus grand nombre, quoi. Et est-ce que je suis bien en train de faire un truc qui puisse être accessible?
D'accord.
Et cette manette, c'est vraiment un résultat direct de ce changement de philosophie. Et ouais, ça fait vraiment, apparemment, ça fait plusieurs années qu'ils bossaient sur le projet. Et non, ça a l'air vraiment très bien. Après, je ne suis pas connaisseur spécifiquement de ce sujet, parce que je ne suis pas en situation de handicap et je n'ai pas de personnes dans mon entourage qui le sont. Donc,
on n'a pas de témoignage direct, mais clairement, je pense que c'est un cas, comme tu le disais, où les gens ont l'air unanimes et les gens qui savent ont l'air unanimes aussi. Donc,
j'ai hâte. comme toi, j'ai hâte que la concurrence suive. Enfin, j'espère, voilà. Là, c'est un truc sur lequel, tu vois, il faut mettre la concurrence de côté, il faut avancer dans le bon sens, quoi, j'ai envie de dire.
Ça serait tellement magnifique qu'on ait dans, je sais pas, à l'E3, par exemple, qui a lieu dans 2 semaines, Microsoft et Sony Nintendo. Qui viennent dire, on a vu ce projet, on adore ce truc, et donc on va travailler avec Microsoft pour essayer d'adapter de créer des manettes qui peuvent fonctionner chez nous aussi. Ça serait un truc qui justement pourrait redorer l'image de tout le monde, mais au-delà des bénéfices d'image qu'ils peuvent avoir, je pense que ça serait une bonne chose tout court, quoi. Bon, avançons, à moins que tu n'aies quelque chose à ajouter, Guillaume.
Non, vous avez tout dit. Juste, je me demandais si ça allait pas. Enfin, c'est même pas je me demande, c'est que ça laisse entreapercevoir le fait que ça va aussi favoriser le handi e-sport. Enfin, déjà, il y a pas mal de boulot pour le e-sport, mais si ça peut favoriser aussi le handi e-sport. Je sais pas s'il y a un terme qui est plus approprié que celui-là. Mais...
Je crois que, tu sais, dans le domaine du e-sport, je me demande si... déjà, il n'y a pas vraiment de catégorie handi e-sport, je crois, mais... Si tu peux jouer, je sais pas. Je me demande si ça serait pas une catégorie. Soit tu peux jouer avec les manettes et t'es presque aussi bon que les autres ou aussi bon que les autres. Ouais. Je sais pas. Ça serait intéressant à développer. Mais parlons de la Surface Hub 2 qui a été annoncée. Alors vous vous souvenez de la Surface Hub, c'est une sorte d'immense télé connectée prévue pour les utilisations professionnelles par Microsoft. Surface, bien sûr, donc Microsoft, donc un produit qui est vendu par eux. Et là, c'est une nouvelle version qui sont des télés de 50 pouces et qui peuvent afficher 4K et qui peuvent s'orienter portraits et paysages. Et ils ont donc montré, ils n'ont pas de prix, elle sort qu'en 2019, donc ce n'est pas pour tout de suite. Ils ont montré quelques utilisations et je pense qu'on est dans un cas où c'est vraiment, si ça fonctionne comme ça, c'est un petit peu magique. Mais je me demande si ça fonctionne comme ça, c'est le genre de truc où, bon, il y a des utilisations assez simples, genre, si on a un appel vidéo avec quelqu'un, eh ben, on met la télé en mode portrait et on est un petit peu presque en face de la personne, quoi. Parce que c'est tellement grand et on peut se mettre juste devant la télé, on a juste une image de la personne et c'est comme si on lui parlait face à face. C'est assez impressionnant comme... c'est rien d'incroyable, mais c'est quand même impressionnant comme utilisation. Et puis, au-delà de ça, dans les réunions, dans le travail en entreprise, on peut faire passer des documents de l'un des appareils à l'autre, on peut afficher sur le grand écran. C'est un système de tableau blanc connecté, mais plus que ça. Ils travaillent dessus depuis longtemps avec la première Surface. Je me retourne peut-être encore vers Kassim. Est-ce que tu y crois à ce truc ou est-ce que c'est le genre de machin qui marche jamais vraiment comme prévu et puis t'arrives pas à te connecter au réseau ou t'as... Quand même, avec Microsoft qui a le système pour entreprise avec Active Directory, etc., ça devrait... S'il y a quelqu'un qui peut le faire marcher, c'est eux, j'imagine.
Ouais, c'est un peu ça que j'allais te répondre. C'est, j'allais dire un peu les deux. C'est-à-dire, je suis sûr que avec du Windows 10 et tout ça, il y aura forcément des cas où ça marchera moins bien. Je suis sûr que des gens trouveront des bugs ou des trucs comme ça. C'est sûr et certain. Mais dans le, j'ai envie de penser et de croire que dans la majorité des cas, il y aura pas vraiment de problème. Et que les cas d'utilisation qu'ils montrent dans la vidéo, en tout cas, devraient fonctionner, je pense.
T'as dit que c'était pour le moment. Est-ce que tu y crois, toi, au truc du... Genre, on peut connecter 4 écrans l'un à côté de l'autre. Ils ont presque pas de bord, donc ça fait un écran géant. 4 écrans en portrait l'un à côté de l'autre, et puis chacun peut envoyer ses trucs à son écran. Moi, je t'avoue que j'ai du mal à croire que ça fonctionnera vraiment comme dans la pub, tu vois. C'est genre le burger, dans la pub, il est beau. Quand il arrive dans ton assiette, il est pas exactement comme ça. Mais...
C'est vrai que la vidéo de présentation, elle est très impressionnante et a fait... Ça donne un peu l'impression que c'est les vidéos de vision du futur que les
exactement,
entreprises...
Ouais.
Voilà, et là, ils te disent non, mais c'est pour l'an prochain. Et donc, tu te dis, attends, c'est pour le futur ou l'an prochain. Enfin, c'est un qui est un peu perturbant. Moi, j'ai envie d'y croire dans la mesure. Bah, tu as dit que c'était pour les professionnels, c'est quand même, c'est plus que pour les professionnels, c'est pour les entreprises, quoi. Et puis, c'est pour les grandes entreprises. Hein. C'est pas. C'est un peu. C'est
oui,
pas
l'ancien coûtait 10 000 euros, je crois, le Surface Hub 1. Il coûtait 10 000 euros, si je ne m'abuse. Ouais. Ouais. Et celui-là sera un peu moins cher, mais quand même.
Donc, c'est quand même assez restreint. Et donc, sur le fonctionnement. Pour les, par exemple, la fusion des écrans, oui, je pense que ça fonctionnera. C'est des choses sur lesquelles, en fait, ils travaillent énormément avec Windows 10 en interne. Ils travaillent énormément à l'évolution de l'interface. Tu sais, c'est un peu la continuité de ce qu'ils avaient fait pour que ce soit universel. En gros, le fait que Windows 10 puisse s'adapter au téléphone mobile, même s'ils ont été abandonnés depuis longtemps, bah, ce qu'on voit là, c'est un peu la continuité de ça. C'est-à-dire que Windows 10, il doit être capable de s'adapter, peu importe l'écran, peu importe la configuration, etc. Et donc,
D'accord.
c'est quelque chose sur lequel ils travaillent, et donc j'y crois dans les cas qu'ils montrent en vidéo. Je te dis, après, quand c'est des applications voilà, qui ont été développées pour, ça va être très beau, ça va être très bien, et quand ce sera des applications Microsoft, je suis sûr que ce sera très bien. Quand ce sera le vieux logiciel qui tourne depuis 30 ans dans l'entreprise, là, j'ai un peu plus de doutes, tu vois.
Ouais, c'est sûr. Guillaume, toi, c'est un truc t'intéresse, t'intrigue. Bon, le Surface Hub existe déjà, mais celui-là a l'air encore plus raffiné. Est-ce que c'est pas des trucs superflus quand même dans les entreprises? C'est quand même juste un écran sur lequel tu branches ton ordinateur et tu copies tu affiches ta présentation PowerPoint sur le grand écran qui est déjà dans la pièce. Ça suffit, quoi. Est-ce qu'on a besoin de tous ces trucs hyper compliqués?
Bah, tu m'ôtes les mots de la bouche. Après, c'est peut-être mon expérience à titre pro qui parle trop. Mais j'ai quand même la vidéo, elle est super chouette. Le produit, tout le monde le veut. Demain, on te propose de l'avoir même chez toi. Je suis sûr que, en bon technophile qu'on est, on le voudrait. Puis il y a ce côté quand on tourne l'écran, là, que l'image reste statique. C'est-à-dire qu'il y a pas quand on passe de portrait à paysage. Je ne sais pas si c'est déjà le cas sur les produits actuellement Microsoft, mais l'image reste fixe en fait. Et c'est juste le champ de vision qui se
ouais,
met
on a l'impression
paysage.
de. C'est très impressionnant en fait, c'est très simple, mais on a l'impression de bouger une fenêtre sur un paysage extérieur qui lui
Exactement.
est statique, quoi. Donc ça a un effet assez waouh.
On a l'impression que l'écran en lui-même bouge pas. Et après, par contre, quand on se met en perspective, bah, on a beau voir toutes ces technos arriver et présentées depuis des années, qui sont vraisemblablement viables, hein. On peut aujourd'hui très logiquement se dire que tous ces trucs-là, ils sont réalistement réalisables et achetables et déployables. Mais bah, il y a toujours plein de paperboard dans les entreprises et les tas de papier avec les feutres, bah, ça reste
Ça
quand
n'a pas
même le truc le
disparu.
plus rapide et ça, c'est pas prêt de disparaître, je pense. C'est comme tu dis, diffuser déjà un écran, une slide PowerPoint sur un rétro, ça fait déjà le job. Il y a toutes ces initiatives de tableaux numériques avec les stylos. Bon, même dans le contexte éducatif, je ne suis pas certain que ça puisse facilement se déployer. Mais
Bon,
bon.
à voir, à
Un
voir.
dernier mot. Ouais, un dernier mot pour sortir un peu de. Simplement sur l'équipe qui développe ça, enfin, l'équipe du coup qui est en charge, enfin, c'est les ingénieurs. Les surfaces et qui est très proche aussi de l'équipe qui développe la manette d'accessibilité dont on parlait juste avant. C'est quand même, enfin, j'ai noté quand même à l'annonce de ce produit, même si c'est un produit réservé aux entreprises, j'ai noté vraiment une impression tu sais, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, une mise en comparaison souvent avec ce que pouvaient faire d'autres fabricants, etc. De l'effet waouh justement qui avait déclenché cette vidéo et la façon dont les ingénieurs de cette équipe, de cette division surface arrive toujours un peu à essayer de faire des produits différents, à essayer de créer des nouveaux form factors. On ne sait pas trop si ça va marcher à chaque fois, on ne sait pas trop si commercialement ça va marcher, mais en tout cas ils essayent vraiment de trouver des nouvelles choses. Et c'est pas, ben, voilà, ils essayent un peu comment dire, de casser la malédiction les PC c'est mort, on
Ouais.
n'utilisera plus jamais de PC, etc. quoi.
C'est vrai que c'est intéressant. Ce que je retiens un petit peu dans ta phrase, peut-être de manière un peu facétieuse, c'est au moins ils essayent. D'accord.
Oui, non, mais c'est ça, oui.
Non, mais
Mais
je suis
c'est. Non,
d'accord,
mais
je suis d'accord, je comprends.
ouais, il y en a, ils se prennent des procès pour des claviers qui ne marchent pas très bien sur leur nouveau PC portable. Il y a d'autres, ils essayent de faire des télés plates, tactiles, borderless. Je sais
Bah,
pas
tu
si.
sais, ce qu'ils essayent de faire d'autre, c'est, visiblement, ça c'est une rumeur, mais il semblerait que ça arrive, c'est une surface, mais petit format. C'est-à-dire, comme les surfaces qu'on connaît déjà, qui sont les tablettes, ordinateurs, qui fonctionnent très très bien, bah là, ça serait une surface de format 10 pouces, qui coûterait environ 400 $, donc on imagine 400 à 500 euros, avec USB-C, qui sortirait arriver dès la deuxième moitié de 2018. Je vous avoue que ça, c'est sans doute le truc qui m'enthousiasme le plus, parce que pour le coup, ça serait un vrai ordinateur dans la taille d'une tablette, et moi, je pourrais très facilement trimballer ça pour faire mes enregistrements, enfin, puisque c'est pas vraiment possible sur iPad. Je me demande si ça serait pas, pour le coup, le bon format pour une Surface. Un format tablette, bien sûr, tu ferais pas tourner tous tes jeux les plus puissants sur cette machine, mais c'est pas le but. Un format tablette avec un vrai PC à l'intérieur, moi je crois que je pourrais être client, quoi. Pas d'autres clients.
non, moi j'ai des silences. C'est vraiment le produit. Bah, pour le coup, c'est peut-être plutôt le truc qui va moins me convaincre dans tout ce dont on a parlé.
Oh,
et c'est pas forcément la faute de Microsoft. Ouais, c'est pas forcément Microsoft. C'est tout simplement, t'en as parlé un peu, c'est la puissance. Et je veux pas faire tourner les jeux dernier cri sur une surface à $400, c'est sûr. Par contre, je vois pas quel processeur ils peuvent mettre dedans qui serait assez performant pour suivre les trucs du quotidien. Windows 10, c'est toujours pas iOS en termes d'optimisation pour des petits processeurs.
Mmh,
et les surtout,
soit...
à la limite, Windows 10 tourne bien, c'est les logiciels par-dessus qui. Tu peux pas faire tourner Chrome sur un Intel Atom, quoi, soyons honnêtes. Et à $400, ce sera pas un Intel Core i quelque chose, Core i5, Core i7, j'en sais rien. Donc,
tu viens me détruire mes rêves là, Cassim. C'est cruel.
J'en suis sûr que le produit sera génial, mais les performances, j'ai toujours des. On verra, peut-être que Microsoft réussira à optimiser. Enfin, c'est Microsoft, on verra. Mais,
ouais. Bon. Je sais pas, Guillaume, toi, essaye de me redonner du baume au cœur un peu, non?
C'est dur parce que j'étais dans ta team, Patrick, sur cette histoire. Moi, j'essayais de voir ce qui pourrait m'aider à remplacer un MacBook Air de 2012 qui montre des petits signes de faiblesse. Bah, quand on voit les surfaces aujourd'hui, elles répondent à des vrais besoins de ce côté mix ordinateur-tablette. C'est cool. Mais quand tu vois les tarifs, ça fait vraiment réfléchir. Donc, ouais, tu te disais, une tablette à ce prix-là, une surface à ce prix-là, pourquoi pas? Mais bon, Cassim vient de nous ruiner nos rêves. Donc,
bon, on retrouve le cynisme dont il parlait à l'origine. Au début de l'émission, donc c'est bien, tu es consistent avec ce que tu dis.
Cohérent, et, oui.
Cohérent, voilà, c'est ça, ouais. Bon, parlons un peu de Google, tiens, qui visiblement serait en train de préparer un casque de réalité virtuelle autonome, comparable à celui d'Oculus, enfin de Facebook.
HoloLens, plutôt.
C'est un casque de réalité augmentée, t'as raison, qui serait comparable à HoloLens, du coup. Je sais pas si je veux y croire ou pas. Je reste pas convaincu par le casque de Microsoft, le HoloLens. Mais peut-être que si Google s'y met, je serais plus convaincu. Je sais pas. Mais ça voudrait dire que l'écosystème pourrait se développer au-delà des seuls, pas de la limitation de Microsoft, mais d'un écosystème un petit peu limité. Peut-être à suivre, quoi.
Je te laisserai parler Guillaume après, juste pour dire que je pense que Microsoft et Google ont la même limitation technique, c'est-à-dire qu'en gros, il faut faire rentrer un ordinateur dans un casque portable, et aujourd'hui, on ne peut pas faire quelque chose de vraiment performant et autonome, etc. Par contre, Google a une avance sur Microsoft, c'est sur l'intelligence artificielle et l'analyse de données, et ce que tu disais, c'est l'écosystème. Là, si les caractéristiques dont la rumeur parle pour ce casque se confirment, en gros, c'est plus ou moins un appareil Android embarqué, beaucoup moins performant que nos smartphones modernes.
C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Ils ont aussi de l'avance sur les appareils mobiles qui consomment peu de batterie. Donc ça aussi, c'est peut-être une force que Google. Parce que Microsoft a quand même essayé de faire rentrer Windows 10 en gros dans le HoloLens, ce qui, comme tu le disais, est une autre paire de manches, quoi. Guillaume ?
Oui, tout à fait.
Ouais. Ouais, c'est compliqué cette histoire de réalité augmentée parce que quand on touche un peu du doigt les usages, c'est bête, mais quand tu essayes de mettre une table Ikea chez toi, tu lances l'application en réalité augmentée sur le smartphone, ça te donne un aperçu et tu te dis « Ah ouais, c'est incroyable le potentiel ». Mais il va falloir ce casque, tôt ou tard, et toutes les feuilles de route de nos copains, les grands industriels sur ce sujet-là, passent par la case de l'écosystème qui va être nourri parce qu'il y aura un appareil qui va arriver, qui sera accessible au grand public, pas cher, performant, et malheureusement, il n'y a aucune feuille de route qui permet aujourd'hui de se dire « bah tiens, à moyen et court terme, on va avoir cet appareil démocratisé, démocratisable pour les usages de la réalité augmentée
». Peut-être que celui de Google, basé sur un écosystème mobile, sera plus abordable justement que le HoloLens.
Bah, tout passera sur le prix, justement. Après, sur le profil, ça, pourquoi pas, c'est intéressant. Et ce serait quand même dingue que Google propose pas quelque chose par rapport à ça et réfléchisse pas à ça. Mais ça passera clairement par le prix, hein, une fois de plus, je pense.
À
voir ce que ça va sortir. Ouais.
Bon, effectivement, les caractéristiques sont pas trop mauvaises, mais bon, ça reste à l'état de rumeur. Petite note rapide pour dire que les choses évoluent dans le bon sens aussi du côté d'Android, puisque désormais, Google va obliger les constructeurs à appliquer les correctifs de sécurité. C'est possible grâce à la séparation qu'ils ont fait du niveau bas et du niveau haut de l'OS depuis ces une ou deux versions. Et du coup, maintenant, il est fort possible que les appareils Android soient mis à jour de manière beaucoup plus rapide que ça ne l'était jusqu'à maintenant, ce qui était un vrai problème pour l'utilisation d'Android. Et il est possible que les appareils, donc on va dire d'ici un ou deux ans, les appareils qui sont vendus aujourd'hui, eh bien, ils soient mis à jour régulièrement. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour les utilisateurs d'Android et le grand public en général. Et puisqu'on parle de mobile, eh ben, il y a tout un tas de téléphones plus ou moins bizarres qui sont en train d'arriver, d'être avancés en rumeur. On va faire un passage en revue rapide. Il y a le Red Hydrogen One, qui est un téléphone conçu par la société de caméras haute performance, caméras pour cinéma, etc., Red, qui est un appareil sous Android, mais qui a un écran holographique, entre guillemets, avec, je ne sais pas comment ça se dit en français, mais lenticulaire. Vous savez, c'est des trucs comme on voit les images en 3D dans les trucs de collection d'images, où c'est un petit peu c'est des sortes de trucs arrondis, il y a plein de petits trucs arrondis sur l'image et donc quand on la bouge, on voit à différents endroits, mais petit peu le même écran.
C'est la 3DS en fait.
C'est la 3DS, c'est le Fire Phone je crois, qui faisait ça, etc. Et ils peuvent aussi filmer pour des images 3D pour l'écran holographique. Donc ça, c'est un appareil qui va être très très cher, il est surtout capable de se connecter à tous les objectifs professionnels. Donc c'est un truc qui va s'intégrer à un truc de travail pour les professionnels de la vidéo, j'imagine. Il y a un Lenovo Z5 qui a été teasé, qui n'a ni bordure ni encoche. Alors, à voir comment ils vont faire, donc de téléphone sans bordure, mais sans la petite encoche du haut, à voir comment ils vont faire pour placer les caméras. Le reste, on peut savoir, mais la caméra... Moi, je me demande si quand même ils ont mis une photo du haut de l'appareil. Je me demande si la caméra n'est pas en bas ou un truc du genre. Ou alors peut-être qu'elle sort, quand on appuie sur un bouton, elle sort du haut de l'appareil, un truc du genre. HTC a annoncé qu'ils sont en train de travailler sur un téléphone qui s'appelle le Exodus, qui est un téléphone Android qui a un support natif des protocoles Bitcoin et Ethereum. Je vous avoue que je ne suis pas tout à fait 100% sûr de comprendre exactement ce que ça veut dire pour un téléphone. Je pense qu'ils ne vont pas miner sur le téléphone, mais ça veut dire qu'il pourra plus facilement utiliser les applications de ce type-là. Bon, ça continue dans ce domaine.
J'ai le sentiment plutôt, pour te couper sur cette revue, j'ai le sentiment plutôt qu'ils utilisent, ils veulent en tout cas utiliser la techno de la blockchain pour le stockage des informations et notamment l'échange d'informations sur les messageries, entre autres, etc. Donc c'est évidemment que si tu es de cet appareil-là à quelqu'un qui a le même appareil ou des technos similaires, mais je pense que c'est plus sur cette partie blockchain, technologie, avec ce registre-là, plutôt que sur le fait de miner évidemment des crypto-monnaies.
Oui, bien sûr. Ouais, effectivement. Et puis on a des appareils classiques, hein, le OnePlus 6 qui arrive là, qui est aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est en France qu'il sera disponible aussi, mais OnePlus 6 arrive, très bon téléphone. Le Honor 10, et puis comme nous le rappelait Cassim en début d'émission, enfin avant qu'on commence à enregistrer, Xiaomi qui ouvre ses portes là incessamment sous peu à Paris. Ça fait plein de news de téléphone et du coup, je vais me retourner vers Cassim pour qu'il nous trie un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qui est intéressant dans tout ça?
J'ai envie de dire, il y a deux choses à retenir. Il y a d'un côté ceux qui essayent d'aller... Encore une fois, c'est ceux qui essayent. Ceux qui essayent d'aller plus loin et d'inventer... ceux qui essayent d'inventer de nouvelles choses, bon... HTC, je te cache pas qu'en ce moment, ils sont vraiment dans une situation assez critique sur les smartphones et que cette histoire de blockchain, ça fait un peu, ça sent le projet, tu vois, qui est né en décembre dernier quand il y avait le boom vraiment du Bitcoin, etc. Et qu'ils ont commencé à travailler dessus en décembre dernier et que là, on en entend parler, enfin, ils annoncent leur plan et que bon, enfin les blockchains, on continue d'en parler, mais c'est plus aussi la hype n'est plus aussi forte qu'il y a quelques mois. En tout cas, leurs valeurs ont bien baissé et c'est intéressant, mais ça fait un peu, on fait un truc pour qu'on parle de nous, mais bon, après je suis peut-être médisant sur HTC, mais voilà. Mais moi j'ai toujours un intérêt sur les smartphones. Je me place plutôt du côté du consommateur. Il y a des trucs un peu plus concrets, et je dois t'avouer que sur ce sujet, du coup, c'est plus le OnePlus 6 et le lancement de Xiaomi en France qui me semble vraiment pertinent. Tout ce qui est RAID, écran sans, Lenovo, écran bord à bord, etc., c'est cool, mais à chaque fois, c'est des vitrines technologiques qui sont très intéressantes et il y a plein de choses à en dire. Mais c'est pas forcément des trucs que monsieur tout le monde va aller acheter à son supermarché du coin, quoi, tu vois.
Surtout que le RAID, il coûte 1 200 $ aux États-Unis, ouais. Donc c'est encore plus cher ici. C'est vraiment un truc de professionnel, quoi. C'est pas.
Ouais, c'est vraiment. Et donc, sur le lancement, donc il y a vraiment deux trucs intéressants. Sur le lancement de OnePlus 6, vraiment, c'est le smartphone. Je pense que si on pouvait faire un portrait robot des smartphones en 2018, bah, c'est lui, quoi. C'est-à-dire, il y a à peu près rien d'intéressant à dire sur ce téléphone. il a un écran bord à bord avec encoche. Il a le dernier processeur, le processeur dernière génération. Il a ce qu'il faut en mémoire de stockage, en mémoire vive. Voilà, c'est la dernière version d'Android. Il a un écran AMOLED. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus?
C'était des téléphones. Non, mais t'as raison, c'est exactement ça. Mais OnePlus, il faisait des téléphones qui étaient très bon marché pour la qualité, parce que là, on est quand même une qualité exceptionnelle. Ou enfin, on fait du haut de gamme. Pour un prix de milieu de gamme, on est autour de quoi, 500-600 €. Mais c'était difficile à obtenir en France en particulier. Est-ce que c'est plus facile à obtenir aujourd'hui, les OnePlus? Est-ce que c'est un vrai choix, une vraie alternative pour les amateurs d'Android, ces appareils-là?
Bah alors, OnePlus, c'était déjà quand même relativement simple de les obtenir, parce que ils expédiaient depuis leur site. Enfin, tu pouvais commander sur leur site officiel. C'est pas comme Xiaomi où tu avais besoin d'importer des trucs et que c'était compliqué. OnePlus, c'était quand même déjà relativement plus simple, parce que tu pouvais passer par leur site officiel. Là,
je me souviens de l'époque où il fallait des invitations.
Ils ont marqué une nouvelle étape. Oui, non, là c'est fini ça. D'accord. Par contre, ils ont marqué une nouvelle étape. Là, ils sont carrément disponibles sur Amazon, ce qui va vraiment leur ouvrir, je pense, de nouvelles portes en termes de distribution. C'est vraiment, oui, c'est une marque qui se concentre sur une distribution en ligne. Tu ne la retrouveras pas à la Fnac du coin pour le moment. Mais ils arrivent à la fois chez Amazon et ils arrivent en France chez Bouygues Télécom. Donc, c'est, voilà, petit à petit, la marque s'implante un peu
donc
plus.
Donc, ça devient une vraie option. C'est hyper. Enfin, ça a l'air d'être un super choix, du coup,
ouais,
ce téléphone.
C'est, non, c'est, j'en parlais un peu méchamment, mais c'est un très bon téléphone. C'est juste qu'il n'a rien d'exceptionnel. Enfin, il ne se démarque pas d'une manière ou d'une autre. Il fait tout très bien. Alors, si souvent les OnePlus étaient critiqués sur l'appareil photo, et celui-là n'améliore pas vraiment la recette sur ce point-là. C'est toujours le même. C'est quasiment le même appareil photo que sur le modèle précédent. Et c'est vraiment là où se fait la démarcation entre... ces smartphones vendus à 500 €, comme tu dis, qui sont souvent très haut de gamme, mais à prix serré. Et les vrais smartphones haut de gamme de Samsung et Apple, qui, bon, là, maintenant, tapent dans les 1 000 €, et ont vraiment un meilleur... ont souvent un meilleur appareil photo.
D'accord.
Et justement, le truc qui est intéressant à noter cette année, c'est que d'habitude, OnePlus était un peu seul sur ce marché-là dont tu parlais, ce marché des smartphones à 500 €. Et l'arrivée de Xiaomi en France, en fait, ça va justement chambouler un peu cette habitude-là du fabricant, puisque le meilleur smartphone que peut proposer Xiaomi actuellement, c'est le Mi Mix 2S, et il sera annoncé là aujourd'hui en France, et il devrait être à peu près vendu au même prix que le OnePlus 6, et il a à peu près les mêmes caractéristiques, sauf qu'il n'a pas l'encoche, il a quelques différences de design, etc., mais c'est plus ou moins un smartphone équivalent, et donc OnePlus va vraiment avoir un concurrent cette année, quoi.
Et du coup, les téléphones Xiaomi, donc les Mi, seront disponibles pour le coup comme n'importe quel autre téléphone en France, quoi. Intéressant.
Ouais. C'est ça.
Si tu devais en conseiller un, ça serait lequel?
C'est difficile de trancher entre les deux. Simplement pour dire que là, par contre, Xiaomi avant, c'était compliqué à d'importer. Fallait vraiment être connaisseur, quoi, de la chose pour savoir importer leur téléphone. Donc là, ce sera vraiment disponible sur Amazon, en boutique officielle à Paris, etc.
Elle est où, la boutique, en France?
Elle est dans Paris, je ne me rappelle plus.
D'accord,
exactement.
D'accord, ok. Non, parce que je vais passer à Paris, boutique, je me dis, quoi. Je vais peut-être y faire un tour. Ok.
C'est une boutique dans Paris. Et pour dire que c'est pas n'importe quelle marque quand même. En Espagne, ils sont déjà passés deux ou troisième en fabriquant en une année, hein. Donc en moins d'un an, même en 6 mois. Donc c'est vraiment pas n'importe quelle marque et on va en réentendre parler, je pense. Et à choisir entre les deux, moi j'ai plutôt une préférence pour le Xiaomi, je dois avouer. Mais...
D'accord. Très bien, bah, intéressant effectivement. Donc l'invasion des constructeurs chinois est en train de se produire vraiment quoi.
Si tu veux aller à l'ouverture, Patrick, c'est au 39 boulevard de Sébastopol le 22 mai à 17h.
Bon, le 22 mai, c'est aujourd'hui. Ça va être compliqué, mais peut-être la semaine prochaine. Boulevard de Sébastopol, très bien, je note dans ma tête. l'enceinte HomePod qui ne s'est pas très très bien vendue, on parle de 600 000 unités, ce qui n'est pas énorme par rapport aux concurrents. Bon, elle est aussi plus chère et moins bonne, donc forcément ça n'aide pas. Mais on avait des rumeurs sur une version moins chère du HomePod. Il semblerait qu'elle soit possiblement en train d'arriver sous la marque Beats, donc pour différencier les deux produits. Guillaume, toi tu es un grand fan d'Apple, si je me souviens bien.
Tu te souviens HomePod, bien.
HomePod, oui, non. HomePod moins cher, oui, non. S'il y a un truc à 200 euros, ça te tente ?
Alors, rapidement, HomePod, à la base, non, parce que pour enfin, j'ai pas besoin d'une telle qualité de son chez moi, et malheureusement, la partie intelligente est vraiment trop décevante. En plus, avec une ouverture vraiment réduite sur des services comme Spotify, enfin, quand on achète un HomePod aujourd'hui, c'est Apple Music seulement. Donc, il faut faire un choix complet d'écosystème, une fois de plus, en tout cas pour cette version. Et après, par contre, une enceinte moins chère, alors moi pas plus, mais j'imagine qu'il y a peut-être plein de gens qui ont vu le fait que le HomePod était encensé pour sa qualité de son, et donc qui se disent, bah ouais, moi, pour équiper mon salon, pour remplacer ma chaîne sans fil avec la nouvelle techno de AirPlay, pour accompagner mon téléviseur, parce que comme il est très très plat, il y a un son pourri, je voudrais des super enceintes avec, bah peut-être que ça peut répondre à des besoins. Et du coup, si c'est le cas, de mettre un gros dessus Beats, bah oui, encore plus évidemment, s'il n'y a pas la partie intelligente qu'elle est moins chère mais la même qualité de son, ça peut être cool. Ouais,
bon, enfin la partie intelligente c'est quand même l'intérêt du HomePod, donc
ouais, j'ai l'impression que les rumeurs laissent entendre que justement il n'y aurait pas forcément Siri dessus, quoi, qu'il y aurait juste la partie techno sonore, alors ça reste des rumeurs, hein, la partie sonore, et que c'est aussi ce qui permettrait à Apple d'afficher un prix plus bas.
Ah, pourquoi pas, oui, c'est vrai que dans ces conditions, ça viendrait attaquer le marché peut-être des petites enceintes, peut-être même qu'elles seraient portables. Ça ouais. pourrait venir attaquer ce marché-là, ça pourrait être effectivement.
Absolument.
Mais du coup, est-ce qu'ils garderaient la marque HomePod, qui est quand même très associée à Apple ? Ça pourrait être une stratégie de division, effectivement, des gammes de produits. Un petit peu moins cher chez Beats, c'est quand même marrant de dire Beats moins cher, alors que c'est justement les appareils chers qui jouent tout sur le marketing. Mais oui, c'est genre mini Apple, quoi, ça serait possible.
C'est ce qui se passe sur les casques, hein, d'ailleurs.
Apple fait pas des casques de très grande qualité, hein.
C'est vrai.
Il y a que Beats,
mais qualité de son, c'est vrai.
Ouais, donc.
Je me demande si sur l'enceinte, si Apple va pas lancer en fait toute une gamme de produits Siri intégrés, tu vois. Enfin, il y a des produits maintenant qui sont ni de Google ni d'Amazon et qui intègrent Alexa et Google Assistant, tu vois. Apple, par le passé, ils aiment bien leur écosystème fermé, mais ils aiment bien aussi s'ouvrir aux accessoiristes. Et peut-être que ce Beats, ce serait en fait le premier d'une lignée d'appareils qui ne serait pas du coup HomePod, hein, comme tu disais, justement, pour garder la marque Apple HomePod à part, mais qui intégrerait quand même Siri, en fait, et qui du coup serait en quelque sorte une sorte de mini HomePod.
Ouais, c'est possible, mais moi je me demande si justement la stratégie de division de gamme entre Beats et Apple pourrait permettre justement de toucher tous les marchés sans avoir besoin d'aller chercher des tiers. Surtout que Siri étant de la piètre qualité qu'on sait, tout reposerait sur la qualité de l'appareil lui-même. Et donc, si l'appareil est construit par quelqu'un d'autre, ils n'ont pas la main dessus. Je ne suis pas sûr.
Ils vont peut-être se réveiller pour Siri. Hein.
Là, ils ont
retard,
intérêt.
Je pense qu'ils vont s'y mettre, je pense.
Oui. Là, je pense qu'il ne serait pas impossible même qu'on ait à la conférence de septembre, peut-être pas celle dans deux semaines de la WWDC, mais celle de septembre, il n'est pas impossible qu'on ait une grosse annonce de Siri, que ça fasse partie de la... Genre, que ça soit carrément un produit. Siri revu et corrigé, maintenant, il marche bien, quoi. Donc,
Oui, c'est ça. Oui.
Dernière petite news avant qu'on fasse un break, il y a une nouvelle technologie dont j'avais pas entendu parler jusque-là qui s'appelle le TeraGraph Wi-Fi. qui est en fait une sorte de nouvelle norme du Wi-Fi, qui est la norme suivante, c'est AY, je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, c'est 802.11 AY, qui serait prévu. Bon, bien sûr, on peut l'utiliser en Wi-Fi classique, comme à la maison, mais les constructeurs prévoient aussi de l'utiliser comme des remplacements de la fibre. Alors, on a des débits qui pourraient atteindre les 20 à 30 gigas de manière réaliste, selon les spécialistes, et ils ont une portée de... Alors, ce n'est pas une portée énorme, hein, on parle de 10 à 30 mètres, donc c'est vraiment limité, mais avec ce type d'installation, l'idée serait de mettre des antennes Wi-Fi un petit peu partout dans les villes, de manière à remplacer la fibre. Bien sûr, c'est compliqué à installer parce qu'il faut mettre des antennes partout, mais c'est plus facile que de creuser des digues un petit peu partout dans les villes pour installer de la fibre. Et Facebook et Qualcomm se sont associés pour essayer de développer ce type de technologie pour les villes. Ils voudraient commencer les tests d'ici l'année prochaine, en 2019. Donc, c'est encore une technologie qui vient faciliter l'utilisation sans fil pour le remplacement de la fibre. La portée est quand même le truc qui met un point d'interrogation. Ceci dit, quand on parle de 30 à 100 mètres, qu'est-ce que je disais ? Non, pardon, de 10 à 30 mètres, ce qui est différent par rapport... C'est pas que ça s'installe et puis vous utilisez le Wi-Fi comme ça, c'est que vous avez quand même besoin d'un capteur dans votre maison, donc faut le mettre au bon endroit, et ce capteur va capter ce réseau, et ensuite vous redistribuez du Wi-Fi à vous. Un petit peu comme une box va capter la fibre ou le câble ou ce que c'est, et vous le redistribuez dans la maison par votre Wi-Fi à vous. Donc, peut-être une alternative de plus, la portée est quand même une préoccupation, quoi.
Qui a inventé ce nom, TerraGraph, qu'il se dénonce tout de suite.
Écoute, moi je trouve ça pas mal, c'est assez catchy.
Il y a un côté rétro, en
ouais,
fait.
Ouais, exactement. Ouais. Ça fait un petit peu Tesla.
Ça me rappelle un peu le lancement à l'époque, alors juste avant le lancement de la 4G, le consortium Wi-Fi qui voulait faire le WiMAX, qui était censé être un concurrent, en fait, enfin c'était un concurrent de la 4G tout simplement. Et ça me rappelle un peu ça, parce qu'en fait, ce dont tu parles, les débits qui vont... comme ça, décoller et la fréquence qui est utilisée, qui est du 60 GHz, ça me fait penser tout simplement à la 5G, en fait, qui va arriver. Et je me demande vraiment si ce genre de technologie, enfin, quel est vraiment le but de ce genre de...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Technologie, est-ce que c'est vraiment fait pour qu'un jour ce soit implémenté à grande échelle, ou est-ce qu'ils y croient vraiment, ou est-ce que c'est pour plutôt peut-être mener une négociation sur la 5G, ou enfin tu vois, essayer de lancer d'autres choses, parce que ça vraiment la promesse là de remplacer la fibre, la promesse d'améliorer les débits, etc., c'est vraiment la promesse de la 5G, et c'est le même calendrier, tu vois, et j'y vois vraiment même ce dont tu parlais. Il faudrait une box pour la capter, il faudrait un élément pour la capter, oui, ça s'appellerait un smartphone, ou ça s'appellerait surtout une box 4G, quoi, en fait, tout simplement.
Ouais, c'est un petit 5G, peu le même type de... Ouais, ouais. Bah, c'est une alternative différente, effectivement. C'est une technologie Wi-Fi qui est un petit peu différente de la technologie 5G.
Mobile,
ouais,
bien sûr.
Ouais, mobile, qui est prévue pour, avec une antenne, capter beaucoup plus de... Enfin, bon, je t'avoue que je suis pas grand spécialiste, donc je vais m'arrêter de parler avant de dire des bêtises. Mais c'est une bonne question. Le fait fait est qu'il y a de nombreuses alternatives pour ce type de technologie. Moi, je me demande s'il n'est pas intéressant de séparer les réseaux mobiles des réseaux simili-fibres pour avoir deux réseaux différents et puis c'est pour, pas, pour pouvoir avoir des utilisations un petit peu différentes aussi. Mais bon, ce qui est positif, peut-être, c'est de voir qu'il y a des technologies plus simples à installer que la fibre qui sont en train de se développer, même si, au final, la fibre est la seule option qui puisse se développer sans limite. Parce que la fibre, on peut toujours, toujours subdiviser encore plus les spectres et ajouter de la bande passante. C'est toujours, finalement, c'est presque infini. C'est pas complètement infini, mais c'est presque infini, la fibre. Donc, c'est quand même un investissement important pour l'avenir.
Je viens d'avoir un message d'un conspirationniste qui me dit que si jamais il y a cette techno qui est en cours de développement, c'est parce qu'il y a Facebook derrière qui veut s'accaparer les données, tout ça, tout ça. Mais je préfère pas le relayer.
Oui, oui, non, c'est certainement pas là. Bon, pour qu'est-ce qui te donnerait cette idée-là, franchement ?
Bon, je sais pas.
Franchement, bon, venant de Facebook, ça m'étonnerait.
Bah oui, ça, c'est, si on a appris un truc aujourd'hui, c'est qu'on peut leur faire confiance à Facebook avec les données. On va en reparler dans un moment, justement, mais avant ça, une petite pause pour vous remercier, vous qui êtes soutien de l'émission, vous qui permettez à cette émission d'exister, et pour encourager ceux qui ne sont pas encore soutien de l'émission de peut-être penser à le devenir. Comme je le dis à chaque épisode, l'émission n'a pas de sponsor, ne fait pas de pub. On se contente de recevoir l'argent des auditeurs qui décident que l'émission en vaut la peine. Seulement les élus qui décident que l'émission mérite 1 ou 2 euros par épisode, eh bien, ils deviennent Patreon de l'émission sur patreon.com/rdvtech. Ils choisissent le montant qu'ils donnent par épisode, le nombre d'épisodes pour lesquels ils donnent par mois, et ils peuvent s'arrêter quand ils veulent. Et c'est comme ça qu'est financé l'émission. Donc, si vous pensez qu'elle vous informe, qu'elle vous distrait, qu'elle vous fait passer un bon moment, qu'elle vous est utile, eh ben simplement, pensez peut-être à devenir patriote, vous aussi, sur patreon.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission. Et aujourd'hui, je remercie tout particulièrement Eric EMK, Émile Guillemot, Fabrice Bailly, je pense à Guillemot, ça me fait penser à d'autres choses, Fabrice Bailly, Cyril, Anne Westong, Guy Giraud, Jean-Marie H et Johan Denis. Merci à vous tous de soutenir l'émission et merci à tous ceux qui choisissent de le faire. C'est évidemment grâce à vous que cette émission existe. On continue avec ce sujet dont je parlais tout à l'heure. Alors, YouTube va lancer une version de YouTube Music très bientôt. D'ailleurs, ils l'ont annoncé, je me demande si ce n'est pas cette semaine. Ça sera aux États-Unis, donc ça ne va pas forcément arriver en Europe tout de suite, même s'ils ont annoncé une arrivée en France qui était prévue. Et donc, il y a YouTube Music pour $10 par mois. Donc, un abonnement qui vous permet d'écouter la musique de YouTube. Alors, vous vous dites, mais on peut déjà écouter la musique de YouTube. Et bien là, ça sera sans pub, d'une part, avec une nouvelle app, d'autre part, qui vous permettra d'écouter, bah, soit de regarder les clips, soit de passer votre application enfin, de fermer votre application et d'avoir la musique qui joue toujours. Donc, ça, c'est une révolution pour YouTube, parce que c'est pas possible aujourd'hui. Et il y a d'un autre côté YouTube Red qui permettait déjà ça, qui va devenir YouTube Premium, qui coûtera $2 de plus, donc juste un petit peu en plus, et qui vous permettra de supprimer les vidéos, les publicités de toutes les vidéos YouTube. Donc ça vous donne YouTube Music plus de pubs sur YouTube. Donc c'est un YouTube Premium sans pub, quoi. Mais la version à $10, qui était avant le prix de YouTube Red, ça devient YouTube Music et ça sera uniquement pour la musique. Alors, il y a plein de choses à dire sur ça, mais est-ce que vous êtes intéressé par un service de ce type ?
C'est, Guillaume, c'est déjà en termes d'offre, c'est quand même déjà, faut être honnête, c'est quand même pas très clair. Moi, je pense que je me défie n'importe qui de s'y retrouver. Hein.
Bah en fait,
les YouTube Red d'avant, les musiques.
Ouais, mais... en fait, c'est très simple. Il y a YouTube Music qui sera à $10 par mois et qui aura une app YouTube Music qui vous permet d'écouter de la musique comme toutes les apps de musique. Est-ce que c'est plus compréhensible quand je dis ça comme ça ?
C'est plus ça. Bah en fait, c'est un nouveau nom de ce que j'en comprends aussi. C'est pour ça qu'il y a des noms de services qui se marchent les uns les autres. Il y a un truc qui m'intéressait, c'est Google mettait en avant un élément différenciant qui était la recherche. Par exemple, l'idée, c'est que tu puisses dire, dis donc, Google Music, trouve-moi cette chanson que chantait Bernard Minet dans le générique d'un dessin animé des années 80. Enfin, je sais pas, j'en sais rien, un truc comme ça. Et le fait est que cette recherche, je trouverais ça dommage qu'elle soit cantonnée à un service de musique et qu'elle soit pourquoi pas un niveau un petit peu plus haut des assistants et qui te permettent du coup d'aller donner comme réponse bah, des chansons de, d'autres catalogues, de Spotify, de Deezer et compagnie. Et je ne sais pas si c'est un élément aujourd'hui en plus suffisant pour les gens de choisir un YouTube Music plutôt que d'autres acteurs. Je crois qu'à part le catalogue et le prix, je ne vois pas trop quels éléments pourraient faire changer les gens. En tout cas, la recherche ne me paraît pas être un élément suffisant, quoi.
Ouais, bah c'est un autre service de musique. Moi, le premium, YouTube Premium, je regarde beaucoup YouTube. J'aimerais bien pouvoir me débarrasser des pubs. Et je me dis du coup... Si pour $12 par mois, j'ai plus de pubs sur YouTube, plus un service de musique, bah, j'arrête mon abonnement à Apple Music, j'ai le YouTube Premium, et voilà. Et c'est très simple, ça fait d'une pierre deux coups pour un peu plus cher qu'un service de musique. Je pourrais être intéressé. Kassim, okay. Je suis sûr que comme les jeunes, tu passes beaucoup de temps sur YouTube, donc ça t'intéresserait aussi, non ?
Attends, je mets ma casquette à l'envers. Oui, non, mais alors oui, donc déjà, bon, l'annonce, oui, c'est super compliqué. Enfin, Google n'arrive pas à lancer, ils sont vraiment mauvais sur les services, des fois c'est incroyable. Enfin, ça et le service de messagerie, c'est les deux trucs où ils ne sont pas foutus d'avoir un seul service qui réunit tout. En fait, il faut toujours qu'ils aient 40 000 offres. Parce qu'en plus, ce qu'on n'a pas dit, c'est bien sûr que Google Play Music reste au catalogue, hein. Il est toujours actif et tout ça. Il y a Google Play Music, YouTube Premium, YouTube Music Premium, enfin bref.
Je pense qu'ils vont retirer Google Play Music à un moment. Tu vois,
je pense qu'ils n'osent pas le dire.
Ouais, mais ça va. Enfin, retirer, ils vont associer les deux, quoi. Ils vont donner un abonnement YouTube Music à tous ceux qui ont un abonnement Google Play Music, et puis voilà, c'est réglé. Mais ça viendra après.
Ça, c'est déjà annoncé, oui. Non, mais ça, c'est déjà annoncé que si tu es abonné Google Play Music, bien sûr, tu as accès à YouTube Music, ce qui simplifie encore plus les choses. Tu vas te retrouver avec deux applications de musique, c'est génial. Alors, les deux questions, en fait, dont j'aimerais des réponses, en fait, c'est un, Google Play Music, l'avantage était le fait de pouvoir mettre ses propres musiques sur le service. C'est-à-dire que quand tu as des musiques qui ne sont pas au catalogue, bah, tu me mets tes propres rips et du coup après tu les retrouves en streaming sur le service. Et donc ça, YouTube, ils n'en ont pas trop parlé pour. C'était un truc qu'intégrait Google Play Music, ils n'en ont pas parlé pour YouTube. Et la deuxième chose, c'est sur le catalogue justement, parce que Guillaume, tu disais qu'il faudrait une différence de catalogue en fait pour faire basculer les gens. Et pour moi, c'est ça la force de YouTube, en fait, justement. Et c'est pour ça que beaucoup, enfin, moi, j'ai plein de collègues.
Tout le monde est sur YouTube. C'est difficile de. Enfin, tu peux pas te permettre de ne pas être sur YouTube.
Et puis, c'est pas que être sur YouTube, c'est écouter de la musique sur YouTube. Moi, je connais plein de gens. Et même moi, enfin, moi, j'écoute de la musique sur YouTube, tout simplement parce que. Pour une catégorie de musique, par exemple, qui n'est pas du tout sur Apple Music, c'est les bandes-sons de jeux vidéo. Et enfin, tu peux pas. Enfin, sur YouTube, tu as toutes les bandes-sons de tous les jeux vidéo. Tu as même les covers, les réinterprétations, etc. Et ça, a priori, c'était pas très très clair, mais il me semble qu'a priori, c'est intégré dans YouTube Music au même titre que les chansons officielles de, je sais pas moi, Shakira sur Vemo, quoi, tu vois. Comment s'appelle la chaîne qui réunit tous les clips officiels?
Oui, Vemo, Memo, Vemo. Oui, c'est Vemo.
Je sais plus, ouais, bref. Mais en tout cas, voilà, moi, ce qui m'intéresse dans YouTube Music, c'est vraiment tout ce catalogue de musique, j'ai envie de dire presque non officiel, enfin c'est officiel, non officiel, on sait pas trop, bandes son, etc., qui sont sur YouTube, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ayant droit, tu vois, qui ont fait retirer la vidéo. Et effectivement, voilà, c'est vraiment ce catalogue-là qui m'intéresse, en tout cas. Et je crois que tu n'as pas mentionné, par contre, pour YouTube Premium, le service à $12 par mois, le fait qu'il y a aussi les séries télé, les contenus YouTube originaux, quoi.
C'est vrai, ils sont tellement peu populaires que je les ai passés sous silence. Mais c'est vrai qu'il y a Cobra Kai, le spin-off de Karate Kid, qui est disponible sur YouTube Premium.
On peut imaginer qu'à l'avenir, il y ait plus de choses et que du coup, ça devienne un concurrent potentiel, Netflix et compagnie. Et puis, si vraiment à terme, ils abandonnent Google Play Music, moi, ce que j'en retiens aussi, c'est le fait que YouTube va devenir la marque multimédia. J'ai envie de dire le iTunes, si iTunes existait encore vraiment, de Google. Quoi.
C'est vrai.
Là où si tu veux écouter de la musique, si tu veux regarder des films, etc., tu vas sur YouTube, quoi, en gros.
Ouais, c'est possible, oui. Ça peut se développer dans ce sens-là. Et bon, du coup, YouTube Premium pourrait être intéressant puisque ça devient pas juste un truc de vidéo, mais ça inclut de toute façon toute la musique. Et pour $2 de plus, on a plus. Ça pourrait fonctionner.
Juste, je veux mentionner, parce que ça me tient à cœur un petit peu, c'est le fait que Il fut un temps où sur Windows Phone, j'avais une application qui me permettait d'écouter de la musique de YouTube en arrière-plan. Mais je dis ça, je dis rien. Hein.
Oui, c'est juste parce qu'elle était tellement peu utilisée que YouTube n'avait pas été leur demander de la retirer, c'est
exactement.
Tout.
Ouais,
c'est le silence jusqu'au bout.
Ouais, oui.
C'était génial, mais c'était exactement ça.
Bon, parlons un petit peu d'Apple, hein, puisqu'on n'a presque pas parlé d'Apple. Juste pour dire qu'ils ont augmenté le nombre de voitures sans pilote en test. Ils sont... le deuxième nombre de enfin la voiture, je vais recommencer, la société qui a le plus de voitures, ils sont au deuxième rang, ils sont devant Tesla et Waymo, de voitures en test, hein, bien sûr. C'est vraiment intriguant parce que je vois pas aujourd'hui Apple se lancer sur la construction de voitures. Ça aurait peut-être été une possibilité à un moment, mais j'y crois plus aujourd'hui. Et je vois pas non plus qui voudrait avoir un système de voiture autonome de chez Apple. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tous en train de développer les leurs. Il y a 2 ans, peut-être qu'ils auraient pu sortir un truc, mais donc je ne suis pas sûr de ce que fait Apple avec ce programme.
C'est le syndrome Apple Maps, ils ne veulent pas refaire l'erreur qu'ils ont faite. Ah, selon moi, hein, ils ne veulent pas refaire l'erreur qu'ils ont faite sur Apple Maps, sur un marché qui aujourd'hui, enfin, ils ont pris trop de retard par rapport à Google Maps et ils veulent se dire, il vaut mieux qu'on investisse un peu au début, quitte à arrêter, plutôt que de prendre le train trop tard, quoi. Enfin, c'est ma vision.
Ouais, c'est possible.
Moi, j'ai envie de dire, si, quand on voit la différence entre Siri et ses concurrents, est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir confiance dans une intelligence artificielle qui est Apple pour les voitures ? Non, je plaisante, bien sûr. Mais par contre, ouais, je vois pas trop non plus ce que pourrait faire Apple, et surtout en termes de service.
Je vois pas le produit, quoi.
Je les vois pas lancer un concurrent de Uber. Parce que le produit, en fait, ce serait un concurrent de Uber, tout simplement. Ce serait un service d'Apple.
Non, mais ça voudrait dire... Ou alors, Apple... peut-être que tu voudrais dire qu'ils achètent des voitures d'un autre constructeur, qu'ils intègrent leur système de voitures autonomes et ils font un service comme ça, peut-être.
Oui, comme Waymo et comme un concurrent de Uber qui s'appellerait Apple Ride, par exemple, un truc comme ça, qui serait intégré à ton iPhone et qui te viendrait te chercher quand tu viens de l'aéroport pour t'emmener à l'Apple Store le plus proche, j'en sais rien. Mais,
Non, pourquoi pas, c'est une, c'est une alternative à laquelle je n'avais pas pensé. Ouais.
Mais j'y crois pas. Enfin, je trouve que Google et Uber, en l'occurrence, justement, et surtout Google avec Waymo, ils ont vraiment une avance sur ce sujet-là. Et puis, enfin, ils sont tellement plus déjà dans l'idée d'en faire un service. Enfin, je sais pas, je viens pas chez Apple pour les services. Enfin, je sais pas comment dire, mais
non, t'as raison. S'imaginer. Disons que il faut jamais dire jamais, puisque jusqu'à ce que l'iPhone sorte, on n'allait pas chez Apple pour des téléphones non plus. Mais
non, bien sûr.
Mais c'est vrai que l'idée que Apple se mette à acheter des voitures, créer un service de comment dire, un VTC, quoi, un service de VTC,
oui, c'est
aussi étrange que de se dire Apple va se mettre à construire des machines à laver. C'est possible,
oui, c'est ça.
Mais bon, peut-être.
Ouais, ça peut être à des fins de test d'usage qu'on n'identifie pas tout de suite, mais de toute façon, attention, hein, il faut remettre en perspective, on parle de flotte, de taille de flotte, de vent, etc. On passe de 20 à 50 véhicules autonomes qui circulent, donc c'est pas non plus monstrueux.
On parle de voitures qui circulent dans la ville, en circulation, dans la circulation normale. C'est de ça dont on parle. Tiens, parlons un petit peu de sujets controversés. Je disais que Twitter va changer la manière dont il repère les sujets controversés, justement les tweets, les comptes. Et en fait, jusqu'à maintenant, ils utilisaient uniquement le contenu pour déterminer si un tweet pouvait être à retirer ou pas d'ailleurs. Ils se basaient uniquement sur le contenu du tweet. Aujourd'hui, ils vont implémenter de nouvelles méthodes qui prennent en compte énormément de signaux. Et par exemple, on va parler de choses comme le nombre de personnes que le compte suit, le nombre d'autres comptes que le compte suit. Est-ce qu'il tweete à des personnes qu'il ne suit pas ? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont mis un rapport sur le compte, etc., etc. Et c'est marrant parce que c'est le genre de truc qui paraît assez évident comme technique, mais pour y arriver, il a fallu énormément de temps et constater à quel point les méthodes de passage en revue du contenu ne fonctionnent pas parce que ça prend trop de temps, c'est pas assez juste, chacun a une interprétation différente. Mais là, ils vont essayer de repérer les comptes et les contenus toxiques et peut-être même les trolls et les trolls professionnels de cette manière. Ça semble être une bonne méthode, je crois. J'imagine qu'immédiatement, il y a des gens qui vont se dire « Ah, mais ça peut aussi poser des problèmes de faux positifs. » Mais ça, enfin, c'est quand même... moi, ça me paraît être la bonne technique, je pense.
Moi, c'est pas tant les faux positifs qui m'inquiètent là-dedans, et si tant est qu'il y a quelque chose qui m'inquiète, hein, globalement, c'est très positif, effectivement, enfin, je te rejoins là-dessus. C'est juste que c'est quelque chose qui, à une toute petite échelle, est vraiment concernant l'écosystème de Twitter, qui est vraiment un écosystème particulier, mais ça s'apparente un peu à un social scoring, quand même, par certains aspects. Alors, on n'en est pas comme en Chine, où on va pouvoir ou pas prendre l'avion selon notre score, on est très, 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 très loin de ça, mais ça me fait toujours un petit peu peur d'arriver à voir qu'il y a des classements des utilisateurs dans un service comme Twitter par rapport à leurs usages. Pareil, il ne faut pas non plus faire des raccourcis en disant « Ah, c'est le début de la fin de la neutralité du net dans Twitter. » Enfin voilà. Mais je préfère toujours regarder ça avec un petit peu de pincette. Après, globalement, effectivement, il y a tellement de boulot à faire que ces outils me paraissent plutôt très adaptés, effectivement.
Oui, je pense aussi.
Moi, sur les faux positifs, le seul truc que j'aurais à reprocher à Twitter, en fait, c'est le côté... J'ai l'impression que Twitter, c'est le moins bon utilisateur de Twitter, en fait. Enfin, je sais pas.
Précise ta pensée, Kassim.
C'est-à-dire que, est-ce que tu arrives à parler à des gens de Twitter sur Twitter ? Enfin, même Jack, il répond jamais. Non, mais en gros, le service après-vente, enfin, le support de Twitter est vraiment inexistant.
Oh, je suis pas d'accord.
Enfin, t'as l'impression que tu envoies des messages, des bouteilles à la mer, quoi, quand tu parles à Twitter.
Et quand tu veux dire quand tu parles spécifiquement à Twitter pour les problèmes
oui, le
de contenu,
de Twitter, voilà.
Ah bah oui,
voilà,
non, mais c'est exactement le problème qu'ils essayent de résoudre avec cette modification de la manière dont ils passent en revue le contenu. Moi, je pense que c'est exactement ce problème dont tu parles, dont ils sont en train de parler, c'est que ils n'arrivent pas à gérer le truc, et donc il y a des systèmes automatisés qui vont prendre en compte des données. Alors, il va y avoir toujours des cas où c'est clairement bon, ou c'est clairement oui ou clairement non. Il y aura aussi des cas où c'est à la limite, et là on va se dire « Ah merde, peut-être qu'il va y avoir des erreurs ». Mais à mon sens, il va y avoir tellement de cas où c'est clairement oui ou c'est clairement non qu'il y a déjà des choses à faire. À la limite, quand tu n'es pas à 80% sûr, bah, tu fais rien et puis tu passes ça en vue à la main, quoi.
Non, mais c'est très positif. Ce que je voulais juste dire, c'est j'espère que s'il y a un problème, tu pourras avoir un humain en face de toi pour dire…
Ah oui.
S'il te plaît, mon compte, j'aimerais bien y réaccéder parce que tout va bien. Regarde, je suis gentil.
Ouais.
C'est juste ça, et c'est ça en quoi j'ai pas confiance pour Twitter parce que jusqu'à présent, ils m'ont pas prouvé qu'ils étaient capables de faire ça, en fait, d'avoir un support derrière l'automatisme. Mais l'automatisme, oui, je soutiens. Enfin, c'est
je
très
comprends.
Bien, oui. Mais...
Ouais, je crois qu'il y aura toujours des cas où ça va merder. Ça, c'est sûr, et c'est là où ça sera un petit peu problématique. Genre, et les gens vont autant qu'ils gueulent aujourd'hui parce que le compte sur lequel ils ont fait un rapport est toujours actif. Eh bien, demain, ils gueuleront parce que regardez, moi, on m'a fermé mon compte par erreur et je n'arrive toujours pas à le récupérer. Alors que si on devient un petit peu plus strict, eh ben forcément, c'est... Non, mais je comprends ce que tu dis, Kassim, t'as pas tort non plus. Bah tiens, en parlant de réseaux sociaux dans la tourmente, Zuckerberg sera devant le Parlement européen aujourd'hui, je crois, c'est aujourd'hui ou demain, il fait un passage en France d'ailleurs, il va aller à l'Élysée. Et encore plus intéressant que ça, bon, il va répondre aux questions comme ça avait été le cas devant le Parlement américain, j'imagine. C'est ce soir et ça sera live streamé, donc peut-être qu'on regardera ça aussi. Mais il y a un autre truc qui était intéressant, c'est que si vous vous souvenez, le Parlement anglais a sommé Mark Zuckerberg de venir s'expliquer pour les problèmes dont on parle depuis des mois et des mois maintenant. Et ils ont dit soit vous venez vous expliquer, soit la prochaine fois que vous venez en Angleterre, eh ben on vous arrête et on vous amène devant le Parlement. Et vous devez répondre dans telle date. Et Facebook a attendu 3 jours après la date limite à laquelle il devait répondre. Et la responsable de la communication a envoyé un message en disant « Monsieur Zuckerberg n'a pas vraiment de projet de rencontrer le comité ni de voyager en Angleterre aujourd'hui. » Donc voilà.
Foutu Brexit.
C'est vraiment... Alors, c'est un petit peu un doigt d'honneur sous forme écrite. Hein. J'ai l'impression que c'est le plus proche qu'on puisse faire d'un doigt d'honneur. Comment dire ? D'un côté, je comprends pourquoi il dit, bah, enfin, désolé, on va pas envoyer Mark, sachant qu'ils ont envoyé des hauts responsables de la société, hein, c'est pas qu'ils ont envoyé personne, mais ils vont pas envoyer Mark Zuckerberg à chaque pays qui demande d'avoir des explications, surtout qu'il va venir au Parlement européen, il va pas non plus, en plus, aller voir les Anglais, je peux comprendre. Encore une fois, surtout qu'il a envoyé des représentants de la société pour répondre aux questions du Parlement anglais, ce qui, je pense, est nécessaire. Et puis d'un autre côté, moi, en tant qu'Européen, pro-européen, comme tu le disais, Guillaume, c'est toi qui disais merci le Brexit. Ouais, c'est un petit peu genre, bah voilà, vous avez voulu partir. Maintenant, forcément, vous ne pouvez pas jouer, faire cavalier seul et essayer d'avoir le même poids que tous les autres. À un moment, il faut être cohérent avec vos intentions. Donc. Je sais pas, je présente la news sans plus de jugement, mais c'était intéressant, j'ai trouvé.
Alors, je suis d'accord avec vos deux remarques, juste, sauf qu'après, Facebook vend ses services au Royaume-Uni, et donc, si le Royaume-Uni demande à voir Mark Zuckerberg, enfin, je veux dire, ça fait partie pour moi, du pouvoir de souveraineté de la nation, de
la prérogative. Je ne sais pas s'ils peuvent demander à Zuckerberg spécifiquement de venir s'expliquer. Ils peuvent avoir des explications de personnes qui savent ce dont ils parlent chez Facebook. Et c'est le cas. S'il y avait vraiment une... Pour moi, et c'est ce que j'ai entendu de la part de citoyens anglais aussi, c'était un petit peu les responsables politiques du pays, enfin en Angleterre, qui essayait de se faire mousser un petit peu. Et qui agitait le doigt en disant « On va dire à Zuckerberg de venir devant nous s'expliquer !» Sauf qu'ils n'avaient aucun pouvoir sur ce point. Donc c'était plus du spectacle politique que vraiment le besoin d'avoir spécifiquement Zuckerberg. Enfin, je ne sais pas. Non ?
Non, mais si, t'as... Non, mais très bon point également, oui. Ouais. De toute façon, après, j'étais d'accord déjà avec vous, mais c'est juste pour aller dans le sens aussi du Royaume-Uni.
Disons que s'il venait pas s'expliquer devant le Parlement européen, peut-être que j'aurais dit « Ah oui, quand même, c'est un citoyen américain qu'il aille devant le Congrès américain, je comprends. Devant le Parlement européen, ok. Mais encore une fois, oui, il va pas aller devant tous les...
oui, chaque...
ouais. Quoi d'autre ? Justement, en parlant de Facebook, ils ont lancé un portail pour la jeunesse où ils donnent énormément d'informations, de conseils aux jeunes, aux adolescents qui utilisent Facebook sur comment utiliser Facebook. Et ils ont en plus livré des informations sur le nombre de comptes qu'ils ont fermés. Il y a genre 580 millions de faux comptes qu'ils ont fermés. Enfin, c'est un nombre complètement hallucinant. Ils ont pris des actions sur 2,5 millions de... ils ont agi sur 2,5 millions d'exemples d'incitation à la haine. Il y a énormément, ils font énormément de choses. Il y a ce portail spécialement prévu pour les jeunes. Il y a toutes les options qui ont été implémentées suite au RGPD, mais pas seulement. Il y a le fait qu'ils sont désormais en accord avec la loi allemande qui nécessite de supprimer le contenu d'incitation à la haine en 24 heures. Maintenant, ils y arrivent. Et entre parenthèses, on leur reproche de faire trop de zèle et du coup de supprimer du contenu qui ne devrait pas être supprimé. Là, on arrive aux questions dont on parlait tout à l'heure et on se dit, soit vous leur demandez de le faire et à ce moment, ils sont responsables, soit c'est au juge de le faire et on n'a pas la puissance de feu. Donc c'est un petit peu un problème insoluble. Enfin, il y aura toujours des problèmes qui vont être constatés quand on va dans un sens ou dans l'autre. Mais dans l'ensemble, j'ai un petit peu envie de vous poser cette question. Facebook, j'ai l'impression qu'ils font beaucoup pour vous permettre de faire en sorte qu'ils n'utilisent pas vos données personnelles pour la publicité, pour informer les gens sur la manière d'utiliser Facebook, pour vous informer sur vos droits, pour désormais être en conformité, heureusement, avec le RGPD, pour vous permettre de supprimer vos données, de télécharger vos données, etc. Est-ce qu'on n'arrive pas à un point où Facebook est en train de faire, Facebook et les autres, mais particulièrement Facebook parce qu'ils sont emblématiques, ils font tout ce qu'ils peuvent pour être honnête, pour être en conformité avec la loi et pour informer les gens sur le service. Et au bout d'un moment, ça va bien de jeter la pierre à Facebook, mais ça veut dire que les gens utilisent le service en connaissance de cause et qu'ils informent suffisamment les utilisateurs. Je me demande si on n'arrive pas à ce point, et j'en suis pas convaincu, mais je me pose la question, est-ce qu'on peut encore reprocher à Facebook d'être Facebook, quoi ?
Il y a tout il y a toute leur image et leur passé qui malheureusement teinte un peu l'opinion des gens. Même je suis une fois de plus, hein, je suis désolé. Je suis d'accord avec toi, Patrick, sur le fait qu'ils font quand même pas mal de choses. Et encore une fois, je pense que c'est un petit peu facile de tirer à boulet rouge sur Facebook dès qu'il y a un scandale. Et n'empêche que le gros scandale qui a eu lieu, ils ont évidemment leur part de responsabilité. Elle n'est pas totale, mais elle est très importante. Et ils essayent de faire amende honorable. Bah tant mieux, ça va dans le bon sens. Moi, je voulais juste m'attarder 30 secondes sur Facebook for youth, pour les jeunes.
Le youth portal.
Le youth portal, parce que je suis allé jeter un coup d'œil. Et il y a une règle numéro 1 hein, dans la com, quand on parle aux jeunes, c'est ne pas dire qu'ils sont jeunes. Et là, ils n'arrêtent pas hein, pour les jeunes, personne de votre âge, donner aux jeunes le pouvoir, etc. Et ils utilisent des tournures qui sont très bizarres. Je ne sais pas si c'est la traduction, hein, je n'ai pas a été regarder la version anglaise, mais comme ils expliquent comment créer quelque chose de sympa sur Facebook. Et finalement, moi qui fais de l'accompagnement pédagogique sur les nouvelles techno auprès des seniors, je me rends compte que tout le champ lexical qu'ils utilisent et tous les codes de communication, notamment les petits pictos hein, des bénoms qui font coucou, tout ça, ça parle vachement aux personnes plus seniors qu'aux jeunes. Donc je me demande s'ils ne sont pas gourés un peu dans leur brief de com. Mais bon, ça n'enlève rien à leur intention.
Ça et le fait que chaque page, c'est des paragraphes de 20 lignes pour expliquer des trucs comme ton profil ou les pages, etc. Des trucs.
Les seniors, ils adorent ça. Hein.
Oui, d'accord, très bien. je sais pas si c'est vraiment besoin de 20 lignes pour expliquer ce que c'est qu'un profil sur Facebook à des jeunes. Tu vois. Ouais. Et puis, je suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de leur expliquer qu'on leur a scéné un paragraphe de 20 lignes. Je sais pas qui va lire ça, en fait.
Qu'est-ce qu'on pourrait leur demander de faire? Enfin, tu vois, ils disent sur la sécurité, ils répètent des trucs basiques, mais ils disent utiliser des mots de passe complexes.
C'est pas le contenu le problème. C'est la forme en fait. Enfin, c'est plus.
Mais
la
comment
forme
est-ce
que fond,
comment est-ce qu'ils devraient faire? N'oublie pas que les gens qui ont moins de 13 ans ne sont pas censés utiliser Facebook. Hein, donc on s'adresse quand même à des gens qui ont au moins 13 ans.
Perso, la même plateforme, mais avec des vidéos, tutos un peu courtes. Je crois que déjà sur la forme, ça aurait été vachement plus approprié. Pour dire la même chose, hein, encore une fois, t'as raison, Kassim. Je pense que le fond est très pertinent, très bon. De toute façon, c'est Facebook qui explique Facebook, donc ils peuvent pas trop se tromper. Mais par contre, sur la forme, c'est typiquement de la vidéo, quoi, en format vertical qui va bien. Ça aurait été tellement.
Et typiquement, Google, pour leur nouvelle condition d'utilisation, et où ils expliquent les choses en français plus clair. Bah justement, ils ont mis plein de vidéos YouTube intermédiaires qui t'expliquent très rapidement à chaque fois, à chaque section, ce qu'elle fait, etc. Quoi. Et je pense que c'est plus clair et c'est plus. Enfin, surtout, c'est pas tant un problème de clarté qu'un problème de. Il faut prendre le temps pour le faire et.
Et personne va le faire. Mais c'est un petit peu ça que ce à quoi j'en viens, en fait. Est-ce que. On peut. Alors oui, ils auraient pu mettre des vidéos, ok, mais je suis pas certain que les gamins auraient pris le temps d'aller voir la vidéo, si peut-être un peu, mais est-ce que c'est la responsabilité de Facebook vraiment jusqu'à ce point? Est-ce que là, ils n'ont pas vraiment fait au moins qu'on puisse dire, bon, ok, la responsabilité est un petit peu aussi sur les utilisateurs. Au-delà même de la responsabilité, j'ai envie de dire, c'est désormais, je pense, vraiment le choix des utilisateurs. On pourrait dire, oui, mais on n'a pas vraiment le choix parce que tout le monde est sur Facebook, donc il faut être sur Facebook si on veut, machin. Ok, c'est à la limite une autre réflexion. On peut aujourd'hui utiliser Facebook sans qu'il n'utilise trop de nos données privées. Est-ce que la responsabilité, le choix, n'est pas aujourd'hui celui des utilateurs de l'utiliser? Est-ce qu'on peut encore reprocher aux gens est-ce qu'on peut encore reprocher à Facebook que les gens utilisent Facebook? Parce qu'il y a quelques temps, on pouvait le faire, mais...
Là, je te répondrais non, et c'est pas la responsabilité. Et sur mon reproche que je faisais là, concernant le portail pour les jeunes, c'est pas un truc... Enfin, c'est un reproche sur la façon d'avoir fait de Facebook... Mais c'est pas non plus. Je vais pas demander au gouvernement de faire une loi pour obliger Facebook à faire un truc plus clair pour le portail pour les jeunes, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est à un moment. Je suis totalement d'accord avec toi qu'ils ont fait. Là, ils ont fait ce qu'il faut. Enfin, c'est effectivement. Si tu veux, déjà, si tu veux savoir, il y a moyen que tu peux savoir, en fait, si tu as envie de savoir. C'est déjà une étape qui est pas forcément, qui n'était pas forcément très évidente il y a encore quelques mois ou quelques années.
Voilà, c'est merci le RGPD, je crois,
Oui, surtout. Oui, non, mais clairement. Mais en même temps, bon, ce genre de changement, c'est... Enfin, Facebook, c'est marrant, c'est que c'est à la fois la RGPD et en même temps les scandales qui se sont pris, c'est les deux c'est qui vrai. Coïncident au même moment. Mais oui, c'est clairement... Donc, je dirais, à ta question, je dirais, oui, ils ont fait ce qu'il faut. C'est plus vraiment leur responsabilité. Maintenant, ça ne les rend pas exemple de reproche sur le fait qu'ils auraient... Ils auraient pu faire encore mieux, surtout quand ça s'adresse aux jeunes. Maintenant, je ne suis pas aussi spécialiste que Guillaume, du coup, surtout sur la communication, etc. C'est juste moi, a priori, j'ai ouvert une page, je vois... est-ce qu'il y a 10 ans, quand j'étais au collège, j'aurais eu envie de... Ou il y a 15 ans, je ne sais pas, je n'ai pas calculé. quand j'étais encore au collège, est-ce que j'aurais eu envie de lire ces pages-là? Parce qu'on me les aurait probablement fait lire, tu vois, en cours de technologie ou je ne sais pas quel cours voilà, au collège.
Et la réponse est non, oui, je crois que...
Oui, la réponse est non, et il n'y a aucun jeune, de toute façon, parce que soyons honnêtes, il n'y a aucun jeune qui va lire ça sur son temps libre. Hein. Le but, c'est qu'en cours, avec le prof, tu puisses lire ça. Quoi. et il y a encore, à mon avis, des étapes de simplification à faire, mais c'est déjà bien.
Ouais. Bon, donc ce n'est pas non plus Facebook super bravo, vous êtes super cool, c'est genre, bon, ok.
Je ne peux pas dire bravo à quelqu'un qui le fait après qu'on lui ait reproché la tête et qui le fait par obligation.
Bien sûr,
ouais.
Je suis d'accord.
Ils l'ont pas vraiment fait
aussi, quoi. C'est genre... C'est les mêmes notes que moi j'avais au lycée et à l'université. C'est genre 10,5, fais juste ce qu'il faut pour passer. mais pas plus. Ça. Écoute, je pense que les jeunes auront beaucoup plus à gagner, à s'entraîner à Fortnite, le jeu hyper populaire en ce moment, puisque Epic Games a annoncé, t'as vu ça, les 100 millions de prix pour les concours d'e-sport sur Fortnite pour les 12 mois à venir. 100 millions de prix. C'est assez impressionnant. Donc voilà, vous emmerdez pas à lire les trucs ou à aller en classe. Vous jouez à Fortnite et vous devenez bon, c'est bon, vous êtes riche. Bon, allez, plus sérieusement, dernière news, un petit peu WTF, comme on dit sur Internet et quand on est jeune. Il semblerait
sur
que...
Foursquare, c'est ça?
Oui, c'est ça, exactement. Ouais, ouais. Sur Foursquare, on dit WTF. Il semblerait que Netflix ait signé avec... Barack et Michelle Obama pour qu'ils produisent des émissions de télévision. Alors, il y aura des trucs scriptés, donc des trucs en fiction, et des trucs qui seront du domaine du reportage, de l'interview, du documentaire, etc. Et ils ont donc plusieurs années de deal avec Michelle et Barack Obama pour produire du contenu sur Netflix. C'est un petit peu... alors, il y avait des rumeurs depuis un moment, mais quand ça a été signé, j'ai un peu écarquillé les yeux. Pourquoi pas, hein, c'est des gens très intéressants qui ont des choses intéressantes à dire, mais ils vont pas utiliser ça comme plateforme politique, mais pour faire des choses intéressantes. C'est... Je sais pas, même pas trop quoi en penser, en fait. C'est... imaginez, en France, je sais pas, Canal ou OCS qui signerait avec Nicolas Sarkozy ou Hollande pour produire du contenu. Je sais pas. C'est sans doute intéressant, mais...
Avec Donald Trump, qui est issu du monde, entre autres, hein, de la télé, et qui est président maintenant, c'est peut-être le sens inverse qu'ils veulent provoquer, je sais pas.
Bon, c'est...
Vas-y. Je suis admiratif, c'est un mot un peu bizarre à placer sur Netflix, mais je suis admiratif à chaque fois, à chaque news Netflix. Il m'impressionne à chaque news quoi, de ce genre-là, sur où est-ce qu'ils arrêteront quoi. Ça, c'est un peu. T'as une news sur deux, c'est Disney qui rachète un des plus gros studios de Hollywood, tu vois. Et l'autre news, c'est Netflix qui signe avec un gros créateur. Là, c'est Barack et Michelle Obama, mais ils ont aussi signé avec Matt Groening, ils ont signé avec. Shonda Rhimes, enfin d'autres producteurs assez connus de la télévision.
Non, mais ça, c'est
américaine.
Des gens qui font déjà de la télé, tu vois. Là, c'est.
Oui, bien sûr. Oui, mais. Là, non, mais d'accord. Mais oui, non, mais c'est. La news est encore plus intéressante avec Barack et Michelle Obama parce qu'effectivement, ils ne faisaient pas de télé. Et que là, c'est faire rentrer le politique, effectivement, dans la télévision. Mais pour moi, ça fait aussi partie d'une longue série de sorte de. Au rouleau compresseur qui est en train de devenir Netflix, on va produire des films et des séries à la chaîne et on a de plus en plus de créateurs. Enfin, ils s'accaparent tous les créateurs.
Du monde.
Des créateurs de Ouais, non, mais c'est ça, quand t'es créateur de contenu pour de séries télé ou de films, soit tu travailles pour Netflix, soit tu travailles pour Disney, quoi.
Ouais, ouais. Bon, c'est un peu exagéré, mais oui, effectivement, je comprends ce que tu veux dire. Mais écoutez, Netflix, moi, j'ai des concepts aussi d'émissions intéressantes. Et comme Barack et Michelle Obama, j'ai jamais travaillé à la télé. Donc, je pense que, voilà, je pourrais apporter un œil frais au contenu possible à produire. Donc, il y aurait des trucs à faire. Vous pouvez, je suis sûr que vous pouvez trouver mon numéro de téléphone. Bon, bah écoutez, ça va être la fin de cet épisode. Je voudrais remercier très chaleureusement Cassim et Guillaume de s'être prêtés à l'exercice. Est-ce que vous pourriez nous dire où les auditeurs peuvent trouver encore plus de votre contenu qui est au moins de qualité Netflix s'ils veulent en entendre plus? Commençons par Cassim.
Ouais, du contenu original French Pins, tu veux dire
Non, du contenu original Cassim.
oui, donc on peut me retrouver sur Twitter @notcassim, comme d'habitude, et puis sur frandroid.com, où j'écris le plus. Et puis, ce sera tout, voilà.
Très bien. Guillaume.
Alors moi, vous pouvez me retrouver une fois chaque semaine dans Tech Café, une fois par mois dans ReLife, qui sont d'autres podcasts. Et puis si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi, vous pouvez aller sur guillaumevendée.fr. Et comme on est dans les technologies du futur, vous allez pouvoir vous abonner à quelque chose que je viens de lancer, qui est une newsletter sur mon site,
où je parle
de moi et de mes podcasts. Donc comme on est dans les technologies du futur, je trouvais que c'était adapté d'en parler.
Mais tu sais que moi,
est-ce
j'ai longtemps...
Est-ce qu'il y a un flux RSS pour suivre tout ça?
Non, ça remplace justement.
Mais oui, voilà. Moi j'ai longtemps pensé, enfin depuis quelques mois, voire un ou deux ans, je me demandais si ça serait intéressant de lancer une newsletter, parce que c'est effectivement un truc qui se fait pas mal et même de plus en plus. Et il y a un certain appétit chez certains internautes. Et donc, j'y ai vraiment réfléchi sérieusement. Au final, je ne l'ai pas fait parce que j'ai d'autres choses qui me préoccupent. Mais si les auditeurs vous seriez intéressés, alors il faudrait savoir ce qu'il y a dans la newsletter. Mais si vous utilisez des newsletters, vous pouvez venir nous le dire dans les commentaires ou même sur Twitter ou Facebook, etc. Parce que je serais curieux de le savoir. Effectivement, moi, je me demande si ça ne pourrait pas être un truc intéressant à faire en parallèle des podcasts.
Bah, je pense que c'est un bon moyen de le relayer. Je prépare un petit article sur le sujet et je t'enverrai le lien quand je le publierai, comme ça tu regarderas. Mais typiquement, il y a des outils comme Review, ça s'écrit getreview.co, qui sont hyper intuitifs en plus pour les newsletters, qui se branchent sur d'autres services. Donc aujourd'hui, il y a des outils assez dingues pour ça. Et je crois que oui, il y a pas tout le monde, mais pas mal de monde qui est intéressé pour recevoir des contenus par mail, parce que voilà, le contenu reste quand même plutôt fiable, n'est pas soumis à des algorithmes.
Ouais.
On le regarde de manière un peu captive, je pense que c'est pas mal.
Ouais, effectivement, donc à réfléchir. Et puis voilà, ça va être tout pour l'épisode. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook, Instagram, c'est NotePatrick partout. Vous pouvez retrouver cette émission sur frenchspin.fr et venir commenter si on a dit des bêtises, si on a dit des trucs intéressants, vous pouvez venir nous le signaler. Vous pouvez aussi retrouver le rendez-vous jeu sur ce site ou dans votre app de podcast tout simplement, et je vous encourage à aller vous abonner parce qu'il y a l'E3 qui arrive, l'Electronic Entertainment Expo, qui est la grande fête du jeu vidéo annuelle, et ça, c'est toujours un moment absolument extraordinaire, et donc on va évidemment en parler dans le prochain épisode du Rendez-vous Jeu. Donc si vous intéressez un tout petit peu aux jeux vidéo, bah, c'est vraiment le moment d'aller voir ce qui s'y passe, parce que c'est là que toutes les nouveautés sont présentées. Donc le Rendez-vous Jeu sur votre de podcast. Et pour le Rendez-vous Tech, la semaine prochaine, ça sera sans doute pas un podcast d'actualité, ça sera un podcast spécial comme on en fait de temps en temps sur un sujet spécifique. Je vais pas encore dévoiler de quoi il s'agit, mais c'est un truc un petit peu inattendu, mais qui est sans doute bon à connaître un petit peu plus, parce que c'est le cœur de notre pays. Je vous en dis pas plus, c'est juste un petit teasing. Et par contre, ça sera le 5e épisode du mois. Donc, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais n'oubliez pas, si vous êtes Patreon, si vous êtes patriote, n'oubliez pas que vous pouvez limiter le nombre d'épisodes que vous soutenez par mois. Et là, une fois, enfin, je sais plus, une fois, deux fois ou trois fois par an, il y en a 5. Donc, n'oubliez pas d'aller limiter si vous le souhaitez. Et bien sûr, si vous souhaitez soutenir l'émission, vous le savez, vous pouvez aller sur patreon.com, le lien est dans les notes de l'émission, et vous pouvez choisir la somme que vous donnez par mois, le nombre d'épisodes que vous soutenez par mois, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez, etc., etc. Donc c'est hyper simple, hyper, hyper facile. Ça fait du bien à vous et à moi et à l'émission. Et puis ça permet de devenir fier de cette émission qui sort toutes les semaines, parce que c'est grâce à vous qu'elle sort aussi. Je sais que les patriotes sont généralement assez contents de voir ça arriver. Bah, s'ils sont pas contents, ils peuvent partir quand ils veulent, donc forcément. Donc merci à vous tous qui soutenez l'émission. Et ça va être tout. On se fait des bisous tous. Et puis, on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Bisous.
Ciao.
Ciao.
Allez, les bisous, là.
Bisous.
Voilà, c'est bon, ça passe. Allez, ciao à tous. Thank you.